Eh oui, on quitte le studio. Rendez-vous au stade Marcel Picot. Bonsoir Laurent.
Bonsoir, j'étais sur les starting blocks.
J'ai vu, vous êtes parti trop vite, comme bien souvent. Non, je rigole. Allez, bonne soirée. Et bonne soirée. Hommage à Nicolas Hoelweck, Laurent.
Exactement, merci encore Véronique Laure. Oui, hommage rendu au président de l'AS Nancy-Lorraine qui nous a quittés il y a maintenant une semaine, à l'âge de 52 ans. En hommage ce soir, pas mal de surprises que nous allons égrener au fur et à mesure de cette soirée et puis des invités bien entendu qui sont arrivés, d'autres qui arriveront dans les prochaines minutes en raison aussi des conditions météo pas faciles, c'est ce que nous disait tout à l'heure Nabil El Yaghoubi, donc le directeur général adjoint de l'AS Nancy-Lorraine. Bonsoir Yoann Gant.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Yoann, soirée un petit peu particulière parce que ce soir il y a également un match de foot qui est prévu à 18h30 face à l'équipe de Martigues. Il va falloir concilier les deux ce soir.
Ouais, enfin, j'allais dire que c'est déjà fait pour les Nancéens, parce qu'il y a quand même eu le match
laissé à domicile
de lundi. Mais on va dire que la charge était encore plus forte lundi, puisqu'ils l'avaient appris le matin même. Ces joueurs Nancéens. Là, effectivement, il y a une semaine qui est passée, mais c'est à Marcel Picot, donc c'est l'occasion aussi pour tous les supporters Nancéens, pour tous les amoureux de la SNL, de venir rendre hommage à Nicolas Hoelweck. Donc oui, il y aura plus de monde pour lui rendre hommage, du côté des Nancéens, il y a eu une semaine pour se faire à cette idée qu'il va falloir faire désormais sans le président nancéen. Je peux vous dire que le match lundi du côté de Sochaux a quand même été assez compliqué, rien que dans la préparation, Pablo Correa nous l'avait confié, et dans le déroulé, bien évidemment aussi. Ce soir, c'est un autre challenge à domicile qui se profile pour les Nancéens, toujours avec cette image bien présente du président de la SNL.
Les invités ce soir seront nombreux. Je vous en parlais il y a quelques instants dans les infos. Des présidents de club, des anciens joueurs, des joueurs d'ailleurs, seront également présents. Des dirigeants aussi qui ont voulu venir ce soir à Nancy. Ça prouve, Yoann, que Nicolas Hoelweck était quelqu'un d'apprécié, de respecté dans le milieu du foot.
Oui, parce que ça a été très vite du côté, de ses anciens clubs à lui rendre hommage, notamment le Stade Rennais et l'AS Monaco qui ont été parmi les premiers à réagir. Mais il avait aussi des fonctions au sein du club et donc régulièrement dans les instances de la Ligue. Et c'est pour ça qu'il côtoyait la plupart des présidents de Ligue 1 et de Ligue 2. Et effectivement, beaucoup nous ont confié que c'était un vrai plaisir de travailler avec lui, son professionnalisme. Sa vision des choses aussi pour le foot était très appréciée et du coup une certaine unanimité on va dire dans tous les clubs professionnels et clubs de national aussi et qui ont rendu bien évidemment hommage à Nicolas Hoelweck.
L'intérêt c'est aussi d'entendre d'anciens joueurs de l'AS Nancy-Lorraine comme Frédéric Biancalani tout à l'heure qui sera avec nous ou encore Benjamin Gavanon dans les prochaines minutes. Ces deux joueurs ont côtoyé, ont appris aussi à connaître Nicolas Hoelweck en tant que directeur général de l'AS Nancy-Lorraine à l'époque. Un garçon dur en affaires, c'est ce que nous diront les garçons. Donc, Frédéric Biancalani et Benjamin Gavanon. Alors, on a connu Nicolas Hoelweck en tant que directeur général. On rappelle un petit peu l'histoire, Yoann. Il a commencé comme stagiaire ici et ensuite, au fur et à mesure, il a monté les échelons, les escaliers un par un. Il a commencé par vendre des abonnements devant le Saint-Seb à cette époque-là. Donc, l'AS Nancy-Lorraine est en Ligue 1, certes, mais il y a encore tout à mettre en place et ça a été l'un des précurseurs qui allait au devant des supporters pour leur parler.
Ouais, puis ils nous ont confié que c'était pas toujours facile. Je me souviens avoir échangé avec Kylian Valentin, des porte-parole des Saturdays, qui disait au début, il nous disait des vérités qu'on avait un petit peu du mal à entendre, mais rétrospectivement, sur le fond, il avait raison. Donc c'est pour ça qu'il y a eu du respect aussi, c'est qu'à un moment donné, il a su dire les choses comme il les sentait à des gens qui, devant, la logique du raisonnement, étaient aussi obligés d'accepter un petit peu ses positions, parce que je me souviens à un moment donné effectivement Kylian disait qu'il réclamait pas mal de choses et que Nicolas Hoelweck les avait pris en disant bon pour l'instant vous êtes une cinquantaine donc vous ne posez pas grand chose et rétrospectivement après il s'était dit ouais à l'époque il avait raison. Alors depuis le groupe a un petit peu plus grossi, a pris un petit peu plus de poids et au fur et à mesure il y a eu un petit peu plus de choses accordées, mais au départ il disait oui ça a fait mal à entendre le jour où il nous a dit ça, mais on s'est compté. effectivement, là, on n'était que 50, donc il fallait aussi faire avec, avec ce qu'il nous disait, parce que ça tombait au coin du bon sens.
Oui, parce que Johan, faut rappeler quand même que l'histoire entre les supporters, les ultras, entre guillemets, et l'AS Nancy Lorraine, à un moment, était assez tendue, et Nicolas Hollweck était très dur, hein, c'est ce qu'il nous avait confié lors de son passage en septembre, lors de sa prise de fonction, hein, en tant que président de l'AS Nancy Lorraine. Il nous avait dit, entre guillemets, c'est vrai que parfois j'étais un peu con, c'est lui qui l'avait dit, hein. À notre micro, il était un petit peu dur, il avait mis de l'eau dans son vin au fur et à mesure que le temps passait. Voilà, donc c'était une relation de je t'aime moi non plus, hein, pendant de nombreuses années. Hein.
Souvent, hein, entre les supporters et le club a besoin des supporters, mais les supporters parfois voilà, font suer un petit peu le club, hein, oui. À payer des amendes, à avoir des petits problèmes des fois de discipline à l'extérieur, tout ça c'est des soucis qui pèsent aussi sur le club. Donc au final, on essaie de trouver un certain équilibre en fonction de ce qu'apportent les uns et les autres. Et donc, ben voilà, Nicolas Hollweck disait à l'époque et sur cette discussion-là, par rapport à ce que vous nous amenez aussi beaucoup de problèmes, donc il va falloir aussi qu'on rétablisse un petit peu les choses. Et c'est pour ça qu'il y a eu un dialogue. Mais au final, voilà, rétrospectivement, les supporters avaient dit, bon, c'est vrai qu'à l'époque, ils nous avaient un petit peu recadré, mais que c'était pas forcément immérité. Et que, voilà, on a appris à discuter avec lui après. Et puis, forcément, quand on arrive au départ, qu'on a un poste, et surtout un poste qui est en lien avec la sécurité, bah on veut marquer un petit peu les choses. Hein. Il faut, j'allais dire, mettre des jalons, poser des limites, et puis relâcher un petit peu après pour voilà, pouvoir faire plaisir et pouvoir aussi remercier ces supporters qui sont là. Donc au début, on serre un petit peu la bride, et puis au fur et à mesure, quand les relations se stabilisent un peu et que chacun commence à se connaître, eh ben, on lâche un petit peu plus de lest. C'est pour ça que voilà, c'est un peu compréhensible qu'il ait reconnu lui-même qu'il avait été dur au départ. Je pense que dans ce genre de fonction, moi, si vous n'y êtes pas, vous faites rapidement marcher sur forcément. Les pieds aussi.
Et ensuite, il a gagné le respect, au fur et à mesure, des supporters, des autres membres de club, en France d'ailleurs. Hein, la preuve, c'est que ce soir, beaucoup de dirigeants, je le répète, d'anciens joueurs seront également là ce soir.
Oui, alors ça a été, j'allais dire, quelque chose de réciproquement bénéfique, parce qu'il nous disait que lui aussi... Bah, ça l'avait fait grandir, hein, de faire ces expériences-là, qu'il avait beaucoup appris, notamment du côté de Monaco. Alors évidemment, pas avec les mêmes moyens, donc c'est pas la même. Enfin, ça reste sur le fond la même façon de travailler, mais pas avec le même portefeuille. Donc il y a aussi des transactions un peu plus grosses à gérer. Hein. On se souvient qu'il avait géré notamment le transfert de Kylian Mbappé de Monaco à Paris. Donc là, les dossiers prennent un peu plus d'importance, mais il avait gardé cette simplicité, cette humilité dans le travail, tout en restant ambitieux. Et je pense que c'est ça aussi qui a séduit beaucoup de présidents de clubs dans son profil. Un garçon qui, voilà, de tous les témoignages qu'on a pu entendre, même s'il a gravi les échelons, a gardé toujours, j'allais dire, l'humilité, le contact avec le terrain. Il savait d'où il venait. Donc c'est un garçon qui... a franchi les postes, a eu de plus en plus de missions importantes, mais en gardant toujours la même philosophie, ce qui n'est pas toujours évident quand on monte comme ça petit à petit dans les hiérarchies.
Je m'adresse à la régie à Nancy, à ton Benjamin Gavanon qui était prévu avec nous sur France Bleu Sud-Lorraine pour un premier témoignage dans cette émission spéciale en direct du stade Marcel Picot. Benjamin Gavanon, l'ancien milieu de terrain de l'AS Nancy Lorraine qui a très très bien connu Nicolas Hollweck. Benjamin Gavanon qui a porté le maillot nancyen pendant près de 7 à 8 saisons. Il me semble, ici même donc à Marcel Picot. Est-ce qu'on peut me répondre oui ou non? Est-ce qu'on a Benjamin Gavanon? Benjamin Gavanon est-il avec nous?
Moi, je vous entends. Bonjour.
Oh, parfait. Bonsoir, Ben.
Salut.
Merci d'avoir accepté notre invitation en étant direct de Picot. Benjamin, donc, on a plein de choses à dire concernant votre rapport et vos rapports avec l'AS Nancy Lorraine et Nicolas Hollweck. Tout d'abord, on rappelle, vous êtes arrivé en 2003 à Nancy, c'est ça, hein, Benjamin?
C'est ça, c'est ça.
Ouais. Et vous êtes resté jusqu'à ?
Je dirais 2000, je crois 2011, il me semble. Ouais, 2011.
Avec une petite balade du côté de Sochaux, hein, pas très loin, l'espace d'une saison, même pas.
Ouais, pas longtemps, je suis pas resté, ouais. C'est ça, une année.
Eh bien justement, donc on va parler de votre rapport et de vos rapports avec Nicolas Hollweck. Quand vous arrivez en 2003, il est déjà là ?
Il est là, ouais.
Comment ça se passe, il est là.
Ben, ça se passe, ben, c'est vrai qu'on se découvre, c'est vrai que moi j'arrive, il est là, je pense qu'il commence à prendre, sa place dans le club. Et finalement, je pense que chacun d'un côté, on a grandi ensemble parce qu'on a évolué, le club a évolué, l'équipe a évolué. Et jusqu'à ce que je parte, finalement, je suis parti. C'est lui qui a les rênes du club. Et d'ailleurs, je crois que quand je m'en vais, que je signe mes papiers avec lui, d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que mon dernier souvenir où je finis mon contrat, ça s'est fait avec Nico.
J'avais une petite question pour Benjamin, parce qu'on a eu aussi Olivier Sorin il y a pas longtemps, qui nous disait que voilà, même s'il était un petit peu côté administratif, il y avait une proximité avec les joueurs, bah, parce qu'il était jeune, vous étiez jeune aussi, et que humainement c'était quelqu'un qui était assez proche des joueurs.
C'est grave, c'est ça, c'est parce qu'en fait à un moment donné, je pense qu'il aurait même par moment il aurait pu faire partie de notre bande, parce qu'il pouvait être avec nous, nous écouter parler. Rigoler de ce qu'on pouvait dire. On ne se gênait pas parce qu'il était là ou quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, même nous, on ne se rendait même pas compte qu'il faisait pas partie de l'équipe, pas de l'équipe de foot, hein, je parle, mais qu'il faisait partie vraiment du staff du club. Et je pense qu'Olivier a vraiment bien résumé la situation.
Benjamin, lorsqu'on parlait primes, il fallait argumenter des deux côtés, et selon Frédéric Biancalani, qu'on écoutera tout à l'heure, c'était c'était vraiment pas un combat, mais il fallait vraiment aller au front en quelque sorte, parce que lui défendait forcément l'intérêt du club et vous l'intérêt des joueurs. Comment ça se passait? Comment vous faisiez passer les messages pour que ça passe justement?
Ouais, alors ça, je pense que Fred il pourra mieux en parler que moi, parce que c'est vrai que ben, nous on avait simplement les retours et les anciens.
Benjamin, essayez de vous positionner un petit peu mieux, parce qu'on a du mal à vous entendre. La liaison n'est pas forcément exploitable à cette heure-ci. Allez-y.
Là, c'est mieux ou pas?
Ouais, c'est mieux là. On vous écoute.
Ouais, je disais, en fait, ben, c'est vrai que j'ai pas assisté à ces réunions-là, mais les retours qu'on avait, c'est vrai que ça se réglait pas en 5 minutes. Il y avait beaucoup de discussions, d'échanges. Il y avait des contre-propositions. Donc c'est vrai que généralement ça pouvait arriver que le championnat démarre et qu'on n'ait toujours pas trouvé la bonne solution.
Et du coup, comment ça se passait alors? Vous jouiez quand même?
Après, quand même, parce que c'est des trucs qui sont plus rigolos qu'autre chose. Donc c'était, ouais, c'était pas ça le plus important de toute façon. Mais c'est vrai que ça défendait des deux côtés.
Ouais, je sais. C'est ce que dira également Frédéric Biancalani tout à l'heure. Benjamin, sur le plan du caractère, comment était-il Nicolas Hollweck?
Vachement ouvert. Ce que je disais, c'est quelqu'un que j'ai jamais entendu crier. Et quand il avait quelque chose à vous dire, ben, il vous attrapait, il le disait simplement. Ça passait parce que c'était souvent la vérité. Donc quand c'est la vérité, vous l'acceptez plus facilement. Et voilà, mais c'est vrai que par contre il élevait jamais la voix, il a toujours été, moi, comme je l'ai connu quand je suis arrivé, quand je suis parti, j'ai pas trouvé de changement, sauf que forcément il s'était beaucoup plus affirmé, mais c'était quelqu'un, voilà, que j'appréciais sa façon de dire et de faire.
Oui, Benjamin, c'est vrai que quand il était là, Nicolas Hollweck à Nancy la première fois, c'était le numéro 2, mais on a l'impression que vous discutiez plus avec lui qu'avec le président. C'était vraiment votre interlocuteur, j'allais dire, privilégié. Et Jacques Rousselot, c'était quand il y avait un petit peu plus d'exceptionnel.
Ouais, parce que le monsieur Rousselot, c'est vrai qu'on le voyait beaucoup moins souvent. C'est vrai qu'il était occupé. Bon, par contre, quand il venait, on savait que c'était encore plus grave quand même. mais c'est vrai que Nico, voilà, Nico, il était là constamment. Il pouvait venir en forêt de haies. On allait au stade, on lui tombait dessus. On avait besoin de quoi que ce soit. Et puis c'est vrai qu'après, quand il y avait des moments, comment je veux dire, c'est vrai qu'il prenait de plus en plus de place. Et c'est vrai que c'est lui qui, des fois, moi, il m'est arrivé, voilà, que à un moment donné, j'ai fait un peu une connerie, entre guillemets. Bah, c'est Nico qui m'a. C'est même pas passé par le président, en fait. C'est Nico qui m'a convoqué et qui voilà, c'est passé par Nico. Donc, il avait des responsabilités assez grandes.
Ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a entendu sur lui, ce que nous ont dit aussi beaucoup de gens du côté de Rennes ou de Monaco. C'était un gros bosseur.
Ouais, moi le souvenir que j'ai, je crois qu'à chaque fois que je suis allé au stade, je suis toujours tombé sur lui. Où qu'on allait, il a toujours été là. Donc c'est vrai que ça prouvait qu'un mec qui était impliqué, qui aimait ce qu'il faisait et qui le faisait à fond, hein, tout simplement.
Benjamin Gavanon avec nous en direct sur France Bleu Sud-Lorraine à l'occasion de cette émission spéciale en hommage donc à Nicolas Hollweck. On le rappelle jusqu'à 18h, ensuite ce sera l'avant-match. Benjamin, le moment très très fort que vous avez vécu avec Nicolas Hollweck a été certainement la Coupe de la Ligue. Il y en a eu d'autres après parce qu'il y a eu la campagne européenne. Mais à ce moment-là, que se passe-t-il entre les dirigeants, l'équipe? Ça a été l'apothéose hein, pour vous aussi parce que ce groupe qui avait commencé ensemble l'aventure avait vécu quelque chose de très fort. Je parle de groupe parce que les dirigeants également qui ont cru en vous, le coach, le staff et ensuite les joueurs, ça a été perçu comment, notamment par vous et par la classe dirigeante à ce moment-là.
De quoi alors, j'ai pas
la Coupe de la Ligue, la Coupe de la Ligue, 2006 la finale.
Voilà, c'est, je crois que c'est.
C'est l'apothéose.
C'est l'apothéose parce que ouais, il y a même pas de mots, je crois, pour décrire. Je pense qu'il suffit. Des fois, je suis retombé sur une photo où d'ailleurs je vois Nico et Bianca entrelacés.
Oui.
Je pense qu'il y a même pas de mots, je pense, pour expliquer vraiment ce qu'on a pu ressentir, ce que le public nous a donné comme énergie derrière aussi, ce qu'on a pu partager avec un peuple, parce que franchement, au-delà de la victoire, au-delà de tout ce qu'on a pu ressentir nous en tant que joueur, ce retour à la ville le lendemain, oui. il est grandiose. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui peut l'oublier, c'est impossible.
Est-ce que ça a été plus facile ensuite pour négocier les primes?
Je sais pas.
Oui.
Je sais pas. On va dire que ouais, peut-être ça a dû mettre un peu de ça a un peu détendu dans les discussions.
Oui, selon
ouais, je crois qu'après on s'en fout. Ouais. Après, parce que c'était vraiment pas. Avec franchement entre notre groupe et entre le staff, etc. C'était vraiment pas le plus important. Il n'y a pas eu de clash par rapport à ça. Ça pouvait pas mettre une mauvaise ambiance parce que voilà. C'est dur à dire, hein, ce que je vais dire. Mais je pense que ce qu'on a réussi à créer, aussi bien les joueurs que même tout un club, pour l'avoir vécu après ailleurs. Je sais pas si beaucoup ont eu la chance de le vivre dans leur carrière, en fait.
Oui, oui. Pour ça que je vous posais la question.
Parce que je pense que ça a dépassé, voilà. Ça a dépassé beaucoup plus de choses que de simples amitiés.
Oui, ben c'est pour ça que je vous posais la question entre les dirigeants, le public, vous. Donc à un moment, il y a ce moment d'osmose en 2006, hein, Johan, hein, entre le public, les joueurs, et les dirigeants qui ont grandi ensemble en quelque sorte. Parce qu'on a pris une aventure en 2003-2004 quand Pablo arrive. Il met en place donc une sorte de dynamique avec un nouveau groupe, des recrues, bref. Et tout cela se termine avec cette Coupe de la Ligue. Et ensuite, bien entendu, hein, on passe pas très loin de la Champions League en 2008-2009.
Oui, puis c'était le premier gros titre ancien depuis la Coupe de France 78-79. Donc c'était forcément, il y avait beaucoup d'attentes autour de ça. Et je me suis replongé récemment dans les archives de cette finale de Coupe de la Ligue. Et surtout le retour à Nancy sur la place Stan. Wow. C'était quand même impressionnant. Les images aussi, c'était vraiment quelque chose de grandiose. Et Benjamin l'a bien résumé, c'est vrai qu'on voit les dirigeants, les joueurs, vraiment
vrai
tout
partage,
le monde,
hein.
Tout le monde communiait ensemble. C'était super parce que effectivement, ça part aussi du fait que cette équipe, et on en a reparlé aussi il n'y a pas très longtemps avec Pablo Correa, au départ, en se lançant, c'était pas l'objectif d'aller la gagner, mais chemin faisant, petit à petit, avec un parcours remarquable, quasiment aucun but d'encaissé, je crois, jusqu'à la demi-finale, c'était vraiment impressionnant. Et c'est le genre de parcours en coupe, on se dit, les parcours en coupe, ils se fabriquent une fois qu'on est dedans. Ouais, on prévoit pas forcément tel ou tel objectif, mais une fois qu'on y est et que l'osmose prend, c'est ces années-là où on sent que ça peut aller quand même au bout ou pas loin, parce que il y a quelque chose qui se crée collectivement.
C'est ce qui s'est passé avec vous, hein, Benjamin. Ce groupe-là, c'est ce qu'on disait, est né ensemble. Et vous, d'ailleurs, hein, Benjamin, vous arrivez de Marseille, vous êtes recommandé par Alain Perrin, et puis vous parvenez à faire votre petit bonhomme de chemin. Vous gagnez la confiance du coach et du staff technique, hein, quand vous arrivez.
Ouais, complètement. J'arrive sur la pointe des pieds, de toute façon. Même si j'arrive soi-disant de Marseille, bon, peu importe, on s'en fout. Mais concrètement, mon actif, j'ai aucun match derrière moi. Je dois faire mes preuves comme tout le monde finalement. Et en fait, on est tous un peu pareil finalement. Il y en a quelques-uns qui ont un peu plus de matchs, mais on est tous à la recherche de quelque chose pour se lancer. Et l'osmose entre les anciens et les jeunes, en fait, elle est parfaite. Elle est parfaite. Je pense que ça, il n'y a pas de solution miracle. En fait, ça passe ou ça passe pas. Et là, c'est vrai que je pense que c'est difficile de faire mieux.
Justement, ce sont vos plus belles années de footballeur à Nancy, Benjamin Gavanon ?
Complète. Il y a tout, en fait, il y a tout. Je découvre un groupe pro où vous vous sentez investi. Je découvre des amis. Je découvre tout. Un titre de monter en Ligue 1. La première année, on gagne la Coupe de la Ligue. En fait, ça s'arrêtait jamais. On avait l'impression que chaque année, on arrivait à mettre la barre de plus en plus haute. Alors que, franchement, on n'était pas bâti pour ça. Mais c'est vrai que je pense que les coachs nous en demandaient beaucoup. On répondait, ça nous plaisait. Et tout a bien fonctionné.
Merci beaucoup, Benjamin Gavanon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.
Merci. Avec grand plaisir.
Comme d'habitude, Benjamin Gavanon très disponible pour France Bleu Sud Lorraine pour évoquer donc son passage à Nancy et ses relations avec Nicolas Holbeck, le président de l'AS Nancy Lorraine, qui est décédé il y a maintenant une semaine. Johan Gant en direct de Picot. Dans un instant, Frédéric Biancalani, un autre ancien de cette période-là. Lui, il était un petit peu plus, comment dirais-je, plus au contact de Nicolas Holbeck quand il fallait négocier justement les primes avant la Coupe de la Ligue et après la Coupe de la Ligue. Frédéric Biancalani nous racontera quelques anecdotes et notamment les négociations pas toujours faciles avec Nicolas Holbeck. Vous écoutez France Bleu Sud Lorraine, merci de votre fidélité. On le rappelle donc, ce soir, émission spéciale jusqu'à 22h. Nous sommes à Picot avec Johan Gant. Vous suivrez tout à l'heure la rencontre entre l'AS Nancy Lorraine et Martigues. L'avant-match, bien entendu, avec notre consultant foot, Eric Braun, qui arrivera également dans les prochaines minutes. Avec Johan Gant, direct de Picot, pour cette émission spéciale consacrée à l'hommage donc au président de l'AS Nancy Lorraine, Nicolas Holbeck, qui nous a quittés il y a maintenant une semaine à l'âge de 52 ans. Alors qu'on voit là-bas sur notre gauche l'arrivée des jeunes footeux de l'AS Nancy Lorraine qui participeront eux aussi au protocole d'avant-match avec donc une minute d'applaudissement et juste en face donc de la tribune de presse, c'est-à-dire juste en dessous de la tribune azote, il y aura les licenciés de l'AS Nancy Lorraine qui arriveront et qui applaudiront pendant une demi-heure. Et entre-temps, bien sûr, il y aura des clips qui seront diffusés sur les écrans géants ici à Picot de Nicolas Holbeck. On vous en dira un petit peu plus tout à l'heure au fur et à mesure donc de cette soirée. Autre invité, Johan Gant, ce soir dans notre émission hommage à Nicolas Holbeck, le capitaine emblématique de l'AS Nancy Lorraine, l'un des capitaines en tous les cas, c'est Frédéric Biancalani. Salut Fred.
Salut Jean.
Alors, on a beaucoup de choses à te demander, Fred, concernant donc Nicolas Holbeck. Je sais que tu as été très touché, tu as posté d'ailleurs de très très belles photos de toi après la finale en 2006 en Coupe de la Ligue, cette finale remportée par l'AS Nancy Lorraine. Tout d'abord, Nicolas Holbeck, c'était plus qu'un directeur général.
Ouais, une semaine difficile. J'ai toujours un sentiment complexe. Parce que Nico, c'est quelqu'un que j'ai vu grandir avec Jacques Rousselot. Donc, je l'ai vu se construire. Je l'ai rencontré quand il était à Monaco, quand il était encore à Rennes. Donc, j'ai resté en contact. Alors, pas tous les jours, bien sûr. On avait quand même des contacts réguliers. Donc, c'est toujours difficile de perdre une personne qui a quasiment son âge. Alors je sais qu'il s'est battu fortement, qu'il avait pris du recul par rapport à Rennes déjà. Et puis après, quand je l'ai vu revenir à Nancy, je savais que ça allait être complexe. Et malheureusement, est arrivé ce mauvais moment la semaine dernière. Donc c'est vrai que c'est très compliqué depuis un petit moment.
On va revenir sur vos années, Fred. Je dis à vous parce que Nicolas Hollweck fait partie également de ton parcours, de votre parcours, hein, de cette belle équipe qui a amené la Estancy-Lorraine sur le toit du football français, entre guillemets, avec cette victoire en Coupe de la Ligue et ensuite cette qualif, en tous les cas, en Coupe d'Europe, mais on est passé pas très loin de la Champions League. Fred, quand tu vois arriver Nicolas Hollweck au club, tu le vois arriver en tant que stagiaire, comme tout le monde.
Oui, en tant que stagiaire et ancien triathlète. Donc, ouais. Avec déjà pas mal de réflexions, des idées, plein d'idées. Donc, alors, bien sûr que ça prend un petit peu de temps pour que tout se mette en place, parce qu'il était jeune, il était ambitieux, et puis surtout qu'il voulait faire grandir le club. Et je pense qu'il a surtout été très, très, très bien épaulé par Jacques. Et ils ont formé un binôme fantastique pendant de longues années. Et aujourd'hui, si le club a grandi, c'est bien sûr qu'il y a eu tout ce qui est sur le plan football et technique avec le staff. Mais les deux ont fait un binôme exceptionnel pendant des années.
Structurellement parlant, le club, il a grandi, ce club-là, au fur et à mesure aussi. Et l'équipe aussi, sportivement, a grandi. Alors, je voulais juste qu'on revienne, Fred, sur ton rôle dans le vestiaire. Donc, je le disais, capitaine, un garçon du cru, formé chez nous. Comment étaient les relations avec le directeur général à cette époque-là, quand tu arrives comme ça dans le groupe pro et que tu arrives, enfin quand tu arrives, en tous les cas, quand tu arrives à entre guillemets, à faire respecter la voix de l'équipe à ce moment-là. Parce que j'ai une demande bien particulière de la part de Ben Gavanon. Il me dit, tu demanderas à Bianca la polémique sur la prime entre la demi et la finale. Voilà, donc tout cela nous amène à dire que les rapports n'étaient pas forcément toujours évidents entre vous et les dirigeants, quoi.
Non, c'est pas une. En fait, c'est pas une polémique. Tout était clair. En fait, il n'y a jamais eu de polémique avec Jacques et avec Nico. Je pense que ça s'est fait entre bonne intelligence, entre quatre murs. À partir du moment où on touchait un euro, les joueurs prenaient 33%. Ouais. Donc à partir de là, c'était clair. 33% pour les joueurs, 33% pour le club, 33% de charge. Donc il n'y a jamais eu de surprise. Sur les primes de classement, c'était exactement la même chose. Chaque fois que le club retouchait quelque chose, Jacques redistribuait quelque chose aux joueurs. Mm-hmm. Donc il n'y a jamais eu de polémique par rapport à ça. Comme je le disais, ça se faisait entre bonne intelligence. Voilà, il n'y a jamais eu de choses compliquées. C'est juste entre la demi et la finale que le presse il a pété un câble et c'est lui qui nous a fait, qui nous a mis une prime supplémentaire. Mais voilà, c'est la entre guillemets, c'est un peu plus ça une polémique, c'est pas du tout une polémique. Il a fait un cadeau parce que je pense que c'était un moment d'euphorie pour lui. Ouais. Et voilà, mais là, en fait, ce que veut dire Ben, je pense que la prime de la demi-finale était un peu plus importante que la finale, c'est pour ça.
Oui, d'accord. Et dans ces
mais
cas-là.
Mais c'est la seule chose. Mais...
Ouais. Et dans ces cas-là, est-ce que Nicolas Hollweck intervenait ou pas?
Non, c'est Jacques.
Toujours Jacques.
Jacques prenait les décisions par rapport à ça parce que. Aujourd'hui, en fait, comme il l'a toujours dit, comme l'ont toujours dit tous les deux, chaque fois que ça rentre, c'est grâce à vous. Et on doit redistribuer, comme il l'a fait dans sa grande distribution. Quand les magasins marchaient bien, il était capable de redistribuer à ses employés. Et c'est ce qu'il a fait au club, alors pas qu'avec nous, mais avec aussi toutes les autres personnes. Parce que, voilà, parce que c'est quelqu'un de généreux, qui sait faire avancer un groupe et qui a le cœur sur la main. Et je pense qu'aujourd'hui... C'est pour ça, avec tout ce qu'ils ont vécu ensemble avec Nico, c'est quelque chose de très grand et de très fort qui ne pourra jamais, aujourd'hui, on ne peut pas glisser une feuille de papier entre les deux.
Mmh. Fred, sur la relation que tu avais avec Nicolas Hollweck, c'était au-delà employeur-employé ?
Avec beaucoup, oui, mais avec beaucoup de respect, l'un et l'autre, chacun à sa place. Comme je le disais, hein, chacun a sa place et chacun a sa place dans un vestiaire et dans un club et dans un groupe parce que Nico n'entravait pas sur le terrain. Moi, j'allais pas sur l'administratif parce que chacun devait être performant où il était. Mais voilà, il y avait des discussions parce qu'il y avait toujours envie de faire avancer le club. Voilà, mais des discussions, c'était pas seulement avec les joueurs, c'était aussi avec Pablo, avec tout son staff, parce que je pense que Pablo aujourd'hui, vous voyez là ce qu'il refait quand il revient à Nancy. C'est, comme je te dis il y a pas longtemps, c'est grandiose, c'est exceptionnel, et je suis très content pour le club et pour Pablo avec Adri et pour Mike. Voilà, mais voilà, aujourd'hui ils ont reformé un petit peu cette osmose et les résultats sont là, les résultats parlent pour eux et je suis super heureux aujourd'hui.
Fred, justement sur le fait de voir grandir le club à ce moment-là, donc en 2003-2004, avec cette Coupe de la Ligue et ensuite ses qualifications en Coupe d'Europe. Quel était exactement ton rôle dans le vestiaire? On sait très bien, on connaît ta générosité, le fait d'aller au front aussi. Comment c'était perçu par Nicolas Hoelweg, par exemple? Parce que c'est pas forcément évident de se faire une petite place, hein, notamment même quand tu as des résultats, parce que financièrement, il faut tenir les bourses et que l'AS Nancy Lorraine, même si à cette époque-là, c'était plutôt pas mal. Donc, sur le plan financier, il fallait quand même ne pas aller vers la dérive, en quelque sorte.
Non, mais là-dessus, mon rôle était très très, très clair. Moi, j'ai aucun souci là-dessus. Et puis avec Nico non plus, parce que de temps en temps, bien sûr qu'il y a des désaccords. Mais aujourd'hui, chaque fois que le club investissait dépensait un euro, c'était un euro qui était investi. Donc à partir de là, c'était fait en bonne intelligence. Alors certes, de temps en temps, je ne maîtrisais pas les cordons de la bourse. Hein, c'était Jacques et Nico, mais ça, ils l'ont très bien fait. Lui, il y avait un petit peu plus d'argent qu'aujourd'hui. Mais voilà, ils ont essayé d'investir, ils ont essayé de renforcer cette équipe. Ils ont aussi investi dans le centre de formation à l'époque, donc voilà, refait des terrains au centre, en fond et de haie, ça c'est plutôt bien, donc voilà, c'est des bonnes choses. Alors maintenant, il y a un petit peu moins d'argent, donc peut-être que dans l'entretien c'est différent aussi, je sais pas, je suis pas revenu depuis un petit moment, mais c'est vrai que voilà, ça se passait très bien, mon rôle il était tout le temps clair avec les joueurs et avec la direction, donc comme tu l'as dit, ma force c'était de me battre à chaque fois pour le club, mais aussi pour le groupe, et à partir du moment où les résultats étaient positif, c'était facile pour moi. Donc là-dessus, bon, je n'étais pas le seul, hein, bien sûr, hein, on était plusieurs, mais voilà, aujourd'hui, c'était très simple. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure Ben, parce que j'ai pris en cours, ouais. Le groupe s'est construit au fur et à mesure, c'est un groupe bosseur, et comme je l'ai dit une fois à Pablo, même si tu n'es pas là, je sais que les exos ou ce que tu proposes sur le travail athlétique ou autre, il va être fait. Parce qu'à un moment donné, le groupe avait une ligne directrice, il s'y tenait.
2006, la Coupe de la Ligue, Fred, c'est le moment... qu'aujourd'hui les Nancéiens n'ont pas oublié et que les supporters de l'AS Nancy Lorraine n'ont pas oublié. Johan Gant tout à l'heure précisait cette folie, Place Stagne, Johan. T'as revu les images, Johan?
J'ai revu les images, j'ai réécouté aussi les archives de France Bleu Sud-Lorraine à l'époque, la montée au balcon, le cirque qui s'en est suivi parce que ça a été un joyeux cirque, ouais. On va dire ça comme ça, avec Jérôme Prodhomme qui essayait de se faire une petite place entre les joueurs au balcon. Mais c'était vraiment des super exploits et ça l'est d'autant plus que effectivement la Place Stagne, je pense ce jour-là a été vraiment blindé de monde, même les joueurs, je pense, étaient surpris de voir autant d'engouement après ce titre-là. Je pense que Frédéric était comme les autres en arrivant au balcon là et en découvrant un petit peu le parterre. Tout le monde devait avoir les yeux grands ouverts.
Folie, ouais, Fred, la folie, hein, 2006.
Ouais, c'est des super moments. Donc le moment il est monté crescendo tout au long de la semaine parce qu'on était parti déjà en stage sur Paris toute la semaine. Ça s'était très bien passé, il y avait une grosse envie de terminer le taf, hein, parce que comme moi je l'ai entendu, la coupe ça se construit au fur et à mesure. Et les ambitions sont montées au fil des matchs, et c'est vrai que cette demi-finale, après cette demi-finale contre Le Mans, tu sais très bien qu'il ne peut plus rien les arriver. Et j'en ai discuté la semaine dernière avec Pancho à Bardonado, tu vois, de cette finale, eux ils le regrettent parce qu'ils ne l'ont pas préparé correctement en pensant qu'on en avait pris 6 la semaine avant à Marseille et que ça allait être... Alors, je dis pas plus simple, mais peut-être différent. Mais nous, on l'avait préparé, on connaissait la force du groupe. Elle avait une force exceptionnelle et, au niveau mental et puis de ressources. On l'a prouvé à 10 contre 11. À partir du moment où tu as un groupe qui lâche pas, qui bosse et qui sait où il veut aller, tu peux traverser, tu peux tout bouleverser. C'est ce qui nous est arrivé. Aujourd'hui, pour déplacer des montagnes, il fallait que le groupe soit uni et c'est ce qu'on a réussi à effectuer.
Fred, pour avoir une bonne équipe, un groupe fort, il faut aussi avoir une classe dirigeante forte.
Mais c'est un tout. Aujourd'hui, c'est une classe dirigeante, c'était un staff, c'était un groupe, c'était une relation très étroite entre le staff, Pablo, Paul et tout le monde. Et puis c'était aussi un groupe avec Jacques, Nico et puis les salariés du club, parce qu'il n'y avait pas 200 salariés dans le club. Mais voilà, aujourd'hui, on se retrouvait tous unis, on savait où on voulait aller, comment on voulait aller. Et puis, moi, j'avais connu autre chose au club auparavant. Et quand tu vis des moments comme ça, tu as envie d'y rester le plus longtemps possible. Et pour y rester, aujourd'hui, il faut travailler. Parce que même quand tu travailles, tu n'es pas sûr d'y arriver. Mais quand tu ne travailles pas, tu es sûr de ne pas y arriver. Donc ouais, voilà, notre force, elle était là. Aujourd'hui, c'était on retrousse les manches et on avance et on lâche pas. Et ça, ça a été notre force pendant des années.
Un mot sur la situation actuelle de l'AS Nancy Lorraine, Fred. Depuis que Nico était revenu, le club s'était entre guillemets restructuré. Il avait commencé un gros boulot. Là aujourd'hui, tu penses qu'on est sur la bonne trajectoire, sur la bonne route?
Il y a des hommes aujourd'hui. Alors, il faut aussi mettre aussi Ben dedans parce que Ben a fait aussi un travail remarquable avec les moyens qu'il avait parce que bon, c'était sa première expérience. Il ne faut pas non plus négliger ce qu'a fait Ben. Exactement, parce que pour le pauvre Ben, c'est pas évident. Et voilà, c'est toujours complexe aujourd'hui quand on reprend un groupe. Et aujourd'hui, Pablo, la force qu'a Pablo aujourd'hui, c'est qu'il connaît. Il a une connaissance parfaite du club. Il connaît le contexte par cœur. Et ça, aujourd'hui, c'est un gain. Et c'est ce qu'avait dit un petit peu Nico. C'était pas programmé. Mais voilà, quand il a décidé de changer Ben et de remettre Pablo, voilà, moi, on m'a posé plein de questions. Et j'ai dit, c'est la bonne solution. Aujourd'hui, Pablo connaît tout. Il connaît les moindres recoins de la forêt d'Oé, il connaît les moindres recoins du club, il connaît les forces du club, les faiblesses du club, et il sait où il veut aller avec l'expérience. Alors en plus, il n'a pas toujours réussi, malheureusement, à l'extérieur. Il a fait des très 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 belles choses à Nancy. Mais voilà, ce qu'il a fait au club, personne ne pourra lui enlever. Ce qu'il va faire au club, personne ne va lui enlever, parce que je sais comment est Pablo, je sais où il veut aller. En plus, il a acquis de l'expérience depuis des années. Et il peut s'appuyer aussi sur Adrian, sur Arnaud, sur Jella qui connaissent le club aussi très très bien. Et Mike, c'est une personne exceptionnelle aujourd'hui pour mener le projet. Et quand on voit aujourd'hui le résultat aujourd'hui de Pablo, mais c'est pas seulement Pablo, quand on voit les résultats de la formation, ça donne vraiment envie d'y croire. Et moi j'y crois à 200%. Voilà, je vois la réserve qui fait des bons résultats, je vois que Gaston aujourd'hui c'est très très bien, les 17 avancent, donc c'est des bonnes choses. Et il y a des personnes qui adorent le club, qui aiment le club, qui sont des amoureux du club et qui vont tout faire pour que le club avance. Et aujourd'hui je peux que les féliciter de loin, mais quand je les vois, ça me fait vibrer tous les week-ends.
Ouais, Fred, pour revenir un petit peu sur votre relation avec Nicolas Hollebecq, Olivier Sorin disait le fait qu'on soit jeunes tous les deux, finalement, quand on s'est connus, ça a beaucoup facilité le fait que on arrivait à discuter sans filtre en fait avec lui et que on n'avait pas forcément il y avait des relations hiérarchiques, mais on va dire que ça simplifiait beaucoup de choses d'avoir un numéro 2 du club aussi jeune. Il pouvait entendre et dire plein de choses. Ça a facilité aussi votre vie, ça, la faible différence d'âge?
Alors, ça la facilite, bien sûr, mais parce qu'il y a une ouverture. Il y a eu une ouverture aussi de Nico. Nico était à l'écoute, il était bienveillant, et c'était sa force dans le management. Aujourd'hui, si tu peux tomber sur un jeune et qu'il y a un jeune qui est fermé, qui ne veut pas avancer, et à partir de là, il n'y a pas de remise en question, c'est fermé, et puis voilà. Mais aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit en introduction, c'est quelqu'un qui était ouvert, c'était quelqu'un qui voulait toujours faire avancer le club, qui voulait faire avancer le groupe. Le staff, alors peut-être qu'on pouvait aller encore plus loin dans tout ce qu'on peut faire, parce que maintenant je vois un peu tout ce qu'on peut mettre en place dans un club, dans une structure. Voilà, bon, il faut bien sûr un peu de moyens, et puis il faut aussi un peu de réflexion et d'ouverture, mais voilà, il avait un regard déjà vers le futur, et puis c'était quelqu'un aussi de visionnaire par rapport à cette situation. Et aujourd'hui, voilà ce qu'il a fait pour le club, comme le dit Olivier à juste titre, parce qu'il y avait de l'écoute et il y avait surtout de l'intelligence de la part de Nico, mais aussi de l'intelligence de la part du groupe. Parce qu'il y avait tout le temps un échange permanent qui pouvait être constructif.
Merci beaucoup, Fred. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir.
Avec plaisir.
Et puis, bon vent hein, pour l'équipe de France féminine.
Ouais, merci beaucoup. C'est gentil.
Voilà.
C'est
gentil. Peut-être Frédéric Biancalani, un jour sélectionneur de l'équipe de France féminine A.
Non, il y a déjà Hervé, là, c'est très bien comme ça. Hein, laissons Hervé comme ça. Si on m'appelle, on verra bien, mais pour l'instant, non, Hervé est encore là jusqu'au JO. Je vais l'aider pour les JO, il n'y a aucun souci. Mais voilà, chacun a sa place, comme je le disais tout à l'heure. Et on peut avancer comme ça.
Merci Fred, merci encore, à bientôt.
Avec plaisir. À bientôt.
Voilà, Frédéric Biancalani en direct sur France Bleu Sud-Lorraine à l'occasion de cette émission. Dommage, on le rappelle, hein, cette émission spéciale. Encore une petite dizaine de minutes et ensuite on entrera dans l'avant-match avec Johan Gant et Eric Brun qui nous rejoindra également. Alors Johan, protocole d'avant-match assez chargé tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnalités, on aperçoit des personnalités, des présidents de club encore une fois, des dirigeants, des membres de la Fédération Française de Foot ou encore de la Ligue. Voilà, donc ils arrivent au fur et à mesure. Et ça n'a pas été forcément simple pour tout le monde parce que les conditions météo pour venir aujourd'hui à Nancy n'ont pas été simples. C'est ce que j'ai appris tout à l'heure.
Oui, c'est vrai qu'on regrette quand même que le président de la fédération ne soit pas là ce soir, ouais. Le président de la Fédération française de football, puisque c'est l'instance organisatrice hein, de cette compétition du championnat national. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup de monde d'annoncer. Et la liste des invités, on va le redire un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça montre quand même l'unanimité que faisait quand même Nicolas Hollweg dans son travail au sein des instances du foot professionnel français. C'est quelqu'un, on a contacté beaucoup de monde, hein, malheureusement, depuis sa disparition, et à chaque fois on a que des retours positifs sur sa personnalité, sur son travail, sur les choses qu'il a mises en place, d'abord du côté de Nancy, qui ont fait pas mal évoluer les choses, et puis c'est un savoir-faire qu'il a exporté, j'allais dire, dans les clubs où il est allé, où je disais où ça changeait à chaque fois d'envergure, mais toujours avec cette simplicité, comme nous l'ont dit les témoins qu'on a pu avoir sur ce début d'émission. Donc ça... Tout se rejoint en fait. Il y a pas de petites choses négatives. Il y a pas de j'allais dire d'ombre au tableau sur la carrière de Nicolas Hollweg, sur ce qu'il a pu apporter bien évidemment d'abord à la SNL et puis ensuite dans les autres clubs où il est passé. C'est vraiment quelqu'un qui a fait avancer des choses, qui a modernisé aussi pas mal de choses. On en parlait la dernière fois, c'est lui qui avait mis en place la fameuse formule entre la Ligue 1 et la Ligue 2 où quand il y avait éventuellement une descente, c'était prévu dès le début du contrat, s'il y avait descente, le salaire allait réduire. C'est quelque chose qui aujourd'hui est courant, hein, et notamment aussi dans la descente entre Ligue 2 et National, où là, on va dire la différence de salaire est encore plus grosse. Et aujourd'hui, c'est quasiment inclus dans chaque contrat. Et c'est Nicolas Hollweg qui avait commencé à faire ça à Nancy, effectivement, ouais. Entre la Ligue 1 et la Ligue 2, avec ses salaires ajustés. Et
comme avec ses abonnements qu'on avait proposés à l'époque à Nancy, hein, vous vous souvenez ?
Puis les matchs gratuits.
Les matchs gratuits,
plein de choses.
Hein. Beaucoup de choses, beaucoup d'animations autour de cette équipe de l'AS Nancy-Lorraine qui avait été couronnée de réussite parce que, à l'époque, souvenez-vous, le football français nous regardait un petit peu bizarrement en disant « c'est pas possible, ça peut pas fonctionner, des abonnements comme ça à bas prix ». Et pourtant, ça avait bien pris et Nicolas Hollweg, encore une fois, hein, faisait partie de cette aventure puisque, selon les anecdotes que l'on a, et elles se recoupent toutes d'ailleurs, Johan, il était devant le parvis du Saint-Seb à Nancy pour faire campagne, pour proposer justement ce produit-là, unique également dans le football français.
Oui, parce que à l'époque, évidemment, il y avait déjà des droits télé, donc l'essentiel des revenus des clubs venait des droits télé, mais beaucoup se disaient, ouais, mais si en plus on supprime les billetteries, même sur quelques matchs, ça va nous faire des trous. Et lui disait, mais attendez, ce qu'on va gagner en termes de notoriété à faire venir des jeunes avec les parents, les grands-parents,
c'est exactement ça.
Fidéliser les jeunes dès le départ pour qu'ils puissent commencer à s'identifier à cette équipe-là, c'était effectivement un bon moyen d'entrée en disant « on vous fait pas venir pour prendre de l'argent, mais venez voir ce que c'est ». Voilà, venez assister au spectacle si vous avez envie de vous abonner après il y a eu des tarifs aussi attractifs pour les abonnements, pour permettre aux gens de revenir d'année en année. Donc il y a eu toute cette politique tarifaire qui finalement, sans mettre en danger les finances du club,
au contraire, parce d'ailleurs que, qu'on jouait devant un stade plein, Johan, à l'époque.
Oui, mais si vous voulez, quand on prend ce genre de décision là, c'est un investissement, et vous savez que quand vous faites un investissement, vous êtes d'abord obligé de sortir un petit peu d'argent, parce que quand vous faites des matchs gratuits, c'est sûr que c'est de l'argent qui ne rentre pas, mais en même temps, vous vous dites peut-être que dans un ou deux ans, ce sera le double d'argent qui va rentrer avec ces supporters qu'on aura réussi à fidéliser, à ces gens qui ont pris l'habitude de venir au stade. Et c'est comme ça que cette formule a marché, en se disant, on ne met pas l'argent pour que ça rentre immédiatement dans les caisses, mais on fait en gros de l'investissement sur le moyen terme. Et si on arrive aujourd'hui à avoir quand même un public de passionnés, avec sur certaines affiches en national 19 000 personnes, comme l'année dernière, avec une moyenne qui tourne quand même autour des 11 000 personnes en national,
c'est
quand même du quasiment du jamais vu pour ce championnat, ça montre aussi qu'effectivement, ça a certainement eu les effets escomptés. Aujourd'hui, la fidélisation du public de Pico a dû commencer dans ces années-là, parce que ceux que vous voyez qui ont une vingtaine d'années, ils ont dû commencer par là.
Ah, ça c'est sûr. Où on entend parler.
Où ils étaient même sur les épaules des parents, des grands-parents sur la place Stanislas, ouais, quand les joueurs sont arrivés, peut-être à 2-3 ans, et que voilà, une vingtaine d'années plus tard, ils se retrouvent abonnés à Marcel Picot, et c'est aussi ça qui fait la réussite du club, et surtout toujours cet esprit familial qui avait été mis sur ces bases-là, par ces principes-là, et qui sont restés au fur et à mesure dans le club.
Parce que ça a été un nouveau départ pour l'AS Nancy Lorraine, hein, en 2003-2004. Tout est allé très vite, tout a plutôt bien fonctionné en l'espace de 6-7 ans. On a vécu vraiment l'apogée du football nancéien, hein, à Johan. Hein. En 2003-2004, c'est le premier étage de la fusée, et ensuite... Il y en a eu d'autres, avec la victoire en coupe de la Ligue. C'est place toujours dans la première partie du classement de Ligue 1 à l'époque. Et puis donc ces Coupes d'Europe et ces moments forts face notamment à Schalke 04, ici même à Picot. Voilà, donc c'était l'aventure qu'avait voulu vivre Nicolas Holweck avec Jacques Rousselot. On le rappelle encore une fois, dirigeant stagiaire au départ, stagiaire qui venait donc de l'ASPTT Nancy et qui a pris parfaitement son rôle de directeur général et qui l'a tenu magnifiquement bien et qui a grandi ensuite avec l'AS Nancy Lorraine. Johan, une question aussi concernant maintenant Nicolas Holweck. On a l'impression que c'était un dirigeant jeune mais à l'ancienne. Un dirigeant moderne mais à l'ancienne.
Oui, parce que bon, son mentor, ça a quand même été Jacques Rousselot.
Jacques Rousselot, ouais.
Donc, on sait que Jacques Rousselot, il a aussi appris beaucoup de lui. On disait qu'il avait appris beaucoup pendant son passage à Monaco avec les dirigeants monégasques, parce que là, on rentrait dans une autre dimension, j'allais dire financière,
ça,
économique.
Ça, c'est sûr. Hein.
Mais les ficelles, les bases, les principes. C'est ici qu'il les a apprises, et notamment avec Jacques Rousselot, parce qu'il sortait d'études de commerce, Nicolas Holweck, et entre commencer à vendre des places ou aller chercher des partenaires, et puis s'occuper de tout un club et de toutes les composantes que ça peut recouvrir, effectivement, il a fait aussi un petit bout du chemin tout seul.
Et après, gérer éventuellement les transferts de Kylian Mbappé, entre autres à Monaco, qui, à cette époque-là, souvenez-vous, c'était le club qui réalisait des bénéfices énormes en termes de trading avec des joueurs qu'ils achetaient à des prix un peu plus bas et qu'ils revendaient magnifiquement bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que Vadim Vassiliev, le président de l'AS Monaco à l'époque-là, avait félicité et avait plusieurs fois évoqué le travail de Nicolas Holweck à Monaco. Hein.
Oui, mais c'était pas que juste une banque, hein,
c'est sûr,
à Monaco,
c'est sûr.
Parce qu'il y a eu des résultats sportifs aussi.
Tout un projet, hein.
Demi-finale de Ligue des Champions, finale de Ligue des Champions. C'est quand même un club qui, au début des années 2000, a eu un joli succès. Et effectivement, Nicolas Holweck a consolidé un petit peu tout ça. Et c'est devenu effectivement une marque de fabrique de ce club monégasque, aller chercher des pépites jeunes à droite à gauche au niveau de l'Europe. Et après, les intégrer un petit peu. Alors, ça avait effectivement déjà commencé à cette période-là. On va dire que maintenant c'est devenu quasiment la marque de fabrique de cette équipe de Monaco, en disant voilà, ils prennent beaucoup de garçons qui arrivent en début de saison, on ne les connaît pas trop, et puis à la fin de la saison on les connaît assez vite, parce que c'est devenu effectivement une voie un petit peu tracée pour l'équipe du Rocher.
Johan, quand Nicolas Holweck est arrivé en septembre, donc pour prendre la présidence, son objectif était de tout d'abord restructurer le club, et son but c'était aussi de se servir de son réseau. Malheureusement il n'a pas eu trop le temps, mais ça aurait pu être aussi quelque chose d'intéressant de ce côté-là pour l'AS Nancy Lorraine. Hein.
Oui,
on perd gros. Hein.
Oui, même si on sent quand même sur 2-3 décisions, 2-3 interventions qu'effectivement le réseau a déjà eu le temps de marcher, parce que le mercato hivernal était quand même assez problématique, et voilà, on cherchait désespérément des pistes côté nancéen, et je crois savoir quand même que le nez de Nicolas Holweck, ses relations, son réseau a aussi fait que visiblement c'est pas trop trompé non plus sur ce mercato hivernal, parce que les garçons qui ont été recrutés, la plupart se sont très vite intégrés à l'équipe et sont venus bonifier cette équipe nancéenne. Donc c'est vrai qu'on aurait aimé que ça puisse durer un petit peu plus longtemps, et que au fur et à mesure de la remontée que tout le monde espère pour les Nancéens, ben, j'allais dire que ces contacts soient de plus en plus pertinents, parce oui. que avec des contacts un petit peu plus haut, effectivement, il aurait pu avoir des prêts de joueurs. En plus, c'est un garçon, on l'a dit, hein, à qui beaucoup de dirigeants faisaient confiance. Donc, c'était aussi une garantie que ben, voilà, ces joueurs-là allaient, être, allaient essayer d'être utilisés pour pouvoir ressortir meilleurs et revenir après dans leur club.
Vous écoutez France Bleu Sud-Lorraine dans quelques instants, les infos de 18h, émission spéciale, on le rappelle, hommage au président Nicolas Hollweck jusqu'à 22h. À vivre également dans un instant l'avant-match de cette rencontre entre l'AS Nancy-Lorraine et Martigues. Johan Gamb, Eric Bruno commentaire, et je rappelle aussi qu'après la rencontre, comme d'habitude, vous pourrez nous appeler au 03 83 36 20 20. Vous qui venez à Picot, vous qui êtes à la maison, vous allez nous suivre et nous vous proposons une très très belle soirée encore à venir sur France Bleu Sud-Lorraine. Dans un instant, le détail également du protocole avec tout ce qu'il y a de prévu pour rendre hommage au président Nicolas Hollweck. Les enfants donc de l'école de foot de l'AS Nancy-Lorraine sont en train de se mettre en place et toute l'organisation également. A tout de suite en direct du stade Marcel Picot pour la suite de cette émission spéciale. Johan Gamb avec nous et Eric Braun qui nous a rejoint, on le rappelle, dans même pas 20-25 minutes. Maintenant, coup d'envoi de la rencontre entre l'AS Nancy-Lorraine et Martigues. Après cette première heure où nous avons évoqué Nicolas Hollweck avec Frédéric Biancalani, Benjamin Gavanon et Johan Gamb, bien entendu. La suite avec le côté sportif et aussi, bien entendu, Johan, le protocole que l'on va suivre avec beaucoup d'attention. Pas mal de rendez-vous à ne pas manquer dans cette première demi-heure. Vous allez nous expliquer tout cela. Et puis Eric Braun, donc, comme je l'ai précisé il y a quelques instants, nous a rejoint. Salut Eric.
Salut Laurent, bonsoir à tous.
Juste un mot, Eric, tu as connu Nicolas Hollweck?
Un petit peu.
Un
mais
petit peu quand même.
Oui, mais il arrivait au club et j'étais plus là depuis très très longtemps. Mmh. Mais comme je venais souvent au match, tout le monde a connu Nicolas Hollweck et tout le monde a su apprécier la qualité de l'homme avant même celle d'être de dirigeant.
On sait que le football amateur comptait beaucoup pour lui aussi. Hein.
Oui, ben, il s'appuyait un petit peu sur ce qu'il entendait à droite et à gauche. Et justement, j'avais l'impression qu'avant son retour, tout ça s'était un peu passé aux oubliettes. Et pour qu'un club fonctionne bien, il faut s'appuyer sur les gens qui sont issus du club et qui gravitent dans les gros clubs lorrains, même Grand Est maintenant.
Vous vous souvenez à l'époque, Picot, les petits clubs, entre guillemets, les clubs amateurs, Richard Ménil, Lunéville, ils avaient tous quasiment une banderole. Et il donnait beaucoup, beaucoup de place d'ailleurs hein, aux clubs régionaux.
Oui, il savait que le soutien venait...
De la base.
Oui, c'est l'essence du football. Et aussi, les clubs amateurs, bien souvent, il y a beaucoup de joueurs qui jouent, quel que soit le niveau, qui sont passés dans les écoles de jeunes à la SNL. Donc forcément, il y a un regard particulier quand tu viens au stade.
Ouais. Johan, le protocole, je dis, est assez chargé. On aura droit notamment à un coup d'envoi tout à l'heure donné par les enfants de Nicolas Hollweck à 18h29. Mais avant, on a prévu l'échauffement des joueurs de l'AS Nancy-Lorraine avec des maillots bien particuliers.
Oui, avec des maillots tout noirs, floqués, merci président, dans le dos. Il y aura bien évidemment un brassard noir qui sera porté par les joueurs pendant le match et puis pendant la rencontre aussi. Dans le dos, au lieu d'avoir leur nom, eh bien, les joueurs auront le nom Hollweck. Floqué sur le maillot si particulier de ce soir. Et ces maillots d'échauffement là qui sont en train de porter les joueurs, eh bien, ils seront ensuite récupérés et vendus aux enchères pour l'Institut. Travailler sur effectivement la recherche sur le cancer et sur l'Institut de cancérologie qui sera bénéficiaire de ces dons. Donc si vous voulez rendre aussi hommage à Nicolas Hollweck et participer à la lutte contre cette maladie, eh bien, n'hésitez pas à aller faire des enchères après sur ces maillots. Et puis il y aura bien évidemment une minute d'applaudissement où il y aura toutes les équipes de jeunes et du centre de formation de la SNL qui seront là pour venir se joindre aux applaudissements des supporters de Marcel Picot pour venir rendre hommage à Nicolas Hollweck. Et il y a déjà un message qui est affiché par le groupe de supporters des Saturdays. Reposez en paix, président. Il y aura plusieurs messages ce soir arborés par les groupes de supporters qui seront eux aussi tous en noir, bien évidemment signe de deuil par rapport à la disparition de Nicolas Hollweck. Et le coup d'envoi effectivement sera donné par les enfants de l'ancien président de Nancy.
Oui, puisque la famille a décidé de rester encore aujourd'hui à Nancy, c'était pas forcément prévu. Et donc les enfants et l'épouse donc de Nicolas et la famille sont bel et bien présents ce soir au stade Marcel Picot. Concernant les maillots aussi, maillots de match, Johan, là aussi ils sont un peu spéciaux, donc ils sont tous loqués du nom de Nicolas Olmec. Ils devraient être également vendus aux enchères en fonction aussi des demandes de la famille. Hein.
Voilà, ils seront a priori confiés à la famille et c'est la famille qui décidera quoi faire de ces maillots de match, probablement, vraisemblablement, là encore, pour essayer de récolter des dons pour lutter contre le cancer. Mais là, ce sera effectivement la décision de la famille. Et puis, j'ajoute qu'il y aura aussi un petit diaporama qui résumera en gros un petit peu la carrière de Nicolas Olmec, et il y aura aussi un montage avec tous les hommages qui ont été rendus depuis sa disparition, et notamment sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2 ce week-end. À noter que pour avoir assisté aussi à un petit match en petite division dans le district de Meurthe-et-Moselle ce week-end, on a aussi respecté une minute de silence en hommage à Nicolas Olmec, même sur les rencontres de jeunes. Parce qu'effectivement, il s'impliquait aussi, j'allais dire, dans la vie du foot amateur, comme le disait Eric. Il y avait quand même aussi pas mal d'actions qui ont été mises en place sous son impulsion entre la SNL et les clubs amateurs.
Le match ASNL Martigues à vivre, bien entendu, sur France Bleu Sud-Lorraine avec Johan Gant et Eric Braun. Dans cet avant-match, il est aussi question de la partie sportive, Eric.
Oui. Ça reste un match de football.
Bien évidemment, l'AS Nancy-Lorraine battue à Sochaux la semaine dernière va devoir réagir ce soir ici même face à Martigues. Est-ce que l'AS Nancy-Lorraine a encore un coup à jouer dans ce championnat, aller chercher autre chose qu'une quatrième place, une troisième place? Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore en parler si tu t'imposes ce soir contre Martigues?
Oui, la SNL a quelque chose à aller chercher, c'est le meilleur classement possible. Maintenant, je pense que la première, la deuxième place, c'est très très loin. Il y a eu la défaite à Sochaux, il y a eu la contre-performance ici contre Gaul FC. Les joueurs, bon, à Sochaux, même si le contexte du match était très particulier, l'équipe dans son ensemble est passée au travers. Ils doivent une revanche et aux supporters et j'allais dire au président. Donc ce soir, ça va être très très compliqué pour Martigues. Et la SNL, en gagnant ce soir, reviendrait à 5 points. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Une troisième place, on sait qu'en national, bien souvent, financièrement, c'est compliqué. Niort a toujours du mal à refaire l'éclairage. Donc, l'argent ne doit pas... il ne doit pas y en avoir plein le club. Donc, sait-on jamais. Il faut aller chercher la troisième place. La deuxième, Niort est encore 3 points plus loin. Ça risque d'être compliqué.
Johan, il faut aussi préparer la saison prochaine, hein, clairement.
Oui, mais dans la situation où est la SNL et après les deux derniers résultats un petit peu décevants à la maison contre le Gaul et en déplacement du côté de Sochaux, c'est une équipe qui voilà doit pas laisser filer la fin de saison parce que il y a quand même effectivement, comme le disait Eric, éventuellement des choses à aller jouer, à aller chercher, mais effectivement il faut prendre les matchs, j'allais dire, sans trop calculer et se préoccuper vraiment de la rencontre du moment et pas d'éventuellement et si Niort avait un faux pas et si Martigues oui. avait un faux pas. Il faut jouer comme ça joue. Pablo Correa disait, à partir du moment où on a commencé à calculer, on est parti un petit peu de travers. Et donc il faut y aller sans calcul, avec détermination, essayer de se dire notre objectif pour l'instant c'est ce match-là, il y en aura 5 autres derrière. Donc voilà, terminer le mieux possible mais sans trop chercher à calculer, en espérant que devant il y ait toujours des petits remous sur une fin de saison où quasiment tout le monde a quelque chose à jouer. C'est ça qui est aussi intéressant dans cette saison avec les 6 descentes qui seront prévues, que vous soyez 8e ou comme le SAS Épinal 16e, il y a encore beaucoup de bagarres pour le maintien. Donc il ne faudra pas négliger cette fin de saison, compter bien évidemment sur un faux pas des autres, mais j'allais dire pas trop s'en préoccuper et faire les matchs comme ils viennent au fur et à mesure.
Eric, Johan, que vaut cette équipe de l'AS Nancy Lorraine? Parce que j'ai posé la question cette semaine dans 100% SNL. On n'a pas trop d'idées sur la valeur de ce groupe. On a vu un début de saison avec ces mêmes joueurs différents, et ensuite Pablo Correa est arrivé, il a transformé cette équipe-là et ce groupe-là. C'est difficile quand même aujourd'hui de se faire une idée de la valeur du groupe, oui ou non?
Je pense que cette équipe, elle est à sa place. C'est une équipe qui ne devait pas lutter pour descendre, mais qui n'avait peut-être pas les armes pour pouvoir prétendre à une montée. Maintenant,
justement, donc tu la situes où?
Eh ben, où elle est, on va dire entre la quatrième et la huitième place. Je pense que cette année, c'est la place de la SNL.
Johan.
Je pense qu'elle boit un petit peu plus que ça. Malheureusement, elle est partie tardivement.
Avec du retard.
Ouais. Très tardivement. Et on voit que quand Pablo Correa est arrivé et qu'il a repris des choses en main, ça a été un gros redressement, énorme redressement, puisqu'au passé d'avant-dernier, quasiment au premier tiers du classement, c'était quand même une sacrée performance. Et je pense qu'effectivement, il serait parti peut-être un petit peu moins tard. Peut-être un petit peu plus confiant en début de saison. Les Nancyens auraient pu jouer quelque chose. Malheureusement, voilà, quand vous arrivez au mois de novembre et que vous êtes avant-dernier, bon, ça arrive, hein, des redressements spectaculaires, mais on voit bien que voilà, il y a une super période de succès. Et puis à un moment donné, ça coince un petit peu parce que il y a eu aussi quelques blessures qui étaient. À des secteurs un peu...
Et à des moments clés de la saison.
Et des joueurs qui avaient aussi, j'allais dire, un rendement intéressant, comme Bourriot, comme Gomel, qui étaient quand même des stabilisateurs de l'entrejeu nancéen. Donc c'est là que ça a commencé à coincer un petit peu, même si on a vu quand même qu'il y avait derrière des garçons qui se sont bien relancés après avoir eu une deuxième chance, qui n'avaient peut-être pas pu la saisir sur la première partie de saison. Et quand on leur a donné une opportunité sur la deuxième moitié de saison... Un exemple tout récent, je pense à Maxime Nonnenmacher par exemple, qui fait une très très belle fin de saison. Donc voilà, il y a eu un petit peu tout ça qui a fait que malheureusement, partis trop loin et avec un peu trop d'handicap qui sont venus se greffer à cette bonne période, la SNL sera sûrement un petit peu courte effectivement de quelques points pour pouvoir prétendre à autre chose que de bien figurer juste en dessous des postulants à l'accession en Ligue 2.
Mais encore une fois, bien finir cette saison pour préparer la suivante en termes de crédibilité, aussi aux yeux des acteurs économiques, Eric Braun, parce qu'il faut quand même aujourd'hui, vaut mieux terminer quatrième, voire troisième du championnat, avoir des arguments pour préparer la saison prochaine avec des arguments qui se tiennent. Et on attend forcément de nouveaux partenaires, de nouveaux leviers économiques pour la saison prochaine. Et ça, c'est important.
Oui, je pense que le retour de Pablo Correa a rapproché la SNL de tout le monde. Du haut du classement,
oui.
Des supporters, des instances, on va dire...
Politiques.
Oui, je cherchais le mot. Ouais. Oui, politique, la métropole. Hein, c'est une équipe qui ressemble plus à ce qu'attend, on va dire, les politiques.
Oui.
Et puis aussi des peut-être futurs actionnaires ou sponsors du club. En figurant bien, c'est une ASNL qui mouille le maillot. Et ici, dans l'Est... On a plus de sueur que de paillettes.
Oui, c'est sûr. Johan.
C'est exactement ça. Eric a bien résumé. Je pense que cette équipe nancéenne l'a prouvé qu'elle était déjà un petit peu tournée vers la saison passée, parce que la prolongation de Pablo Correa n'est pas tombée de nulle part. C'est des gages pour pouvoir dire bon. Tu seras encore là la saison prochaine.
On va travailler.
Voilà, commence à décider déjà qui va rester, qui doit être recruté, qui peut partir. Donc c'était déjà, j'allais dire, se tourner vers l'avenir que de donner 2 ans supplémentaires à Pablo Correa pour lui dire voilà, maintenant tu vas pouvoir travailler un petit peu sur le moyen terme. Il était venu pour, j'allais dire, régler une situation d'urgence, parce qu'il y avait vraiment urgence avec ses Nancyens à l'avant-dernière place. Et donc, une fois qu'il a rempli sa mission d'urgence, maintenant on peut se projeter un petit peu sur le moyen terme et sur l'avenir.
Vous écoutez France Bleu Sud-Lorraine, émission spéciale en hommage à Nicolas Hollweck. Et justement, tout est en train de se mettre en place à Marcel Picot. Les licenciés du club, les féminines, le centre de formation, l'école de foot, voilà, ont gagné donc le stade. Ils sont arrivés depuis la tribune Azote, en face de la tribune Jacquet. Ils sont alignés, Johan, tous habillés de noir, avec des banderoles également qui sont déployées.
Ouais, un grand monsieur est parti reposer en paix, président, et voilà, c'est... c'est une espèce de pancho fabriqué par les membres du Saturday FC pour avoir une tribune tout en noir. Ils l'ont mis par-dessus des maillots et de leur traditionnelle couleur rouge et blanche pour rendre hommage au président de la SNL. Et effectivement, en face de nous, toutes les composantes du club, les jeunes amateurs, les féminines aussi, qui sont là pour rendre hommage à Nicolas Hollebecq et qui vont venir se mettre effectivement au pied de la tribune Azote pour se joindre à la minute d'applaudissement qui est prévue voilà, deux minutes avant le coup d'envoi officiel de la rencontre. Et ça s'active aussi du côté de la
corbeille,
la tribune officielle, effectivement, pour voilà, venir. On voit Vadim Vassiliev, justement, le ancien président de Monaco
ouais,
qui est là, aux côtés de Jacques Rousseau, Mathieu Klein aussi, Chahine Eskirouni pour le département de la Meurthe-et-Moselle, tous les partenaires politiques, institutionnels du club qui sont bien évidemment présents pour rendre hommage à Nicolas Hollebecq, alors qu'en ce moment, c'est la présentation du 11 nancéen.
Oui, je vois également Vincent Ognon,
Gérard Parentin
de Grenoble et de la Estancy-Lorraine, Gérard Parentin, voilà, qui sont arrivés il y a maintenant quelques minutes ici à Marcel Picot. Allez, tout est en place sur France Bleu Sud-Lorraine. On jette un coup d'œil maintenant sur les compos d'équipe, Johan. Une équipe nancyenne classique, avec en tous les cas les joueurs valides du moment.
Oui, valide, parce qu'il y a encore deux absents supplémentaires. Prince Mendy, Maxime Nonnenmacher, qui doivent déclarer forfait ce soir sur blessure, donc il va falloir encore un petit peu ajuster le 11 de la part de Pablo Correa. Ça devrait nous donner dans les buts Martin Sourzac, défense avec les trois centraux, Gaëtan Busman, Luca Pellegrini, Maxence Carlier, dans les couloirs Guilhem Taillot et Shaquille Delos, les milieux de terrain Alassane Diaby et Derek Mazoussako, et puis devant Lénine Angis, Cher Touré et Walid Bouabdelli pour le triangle offensif de la Estancy-Lorraine sur le banc des remplaçants. Jonathan Rivas, Alexis Lefebvre, Jocelyn Gromat, Lamine Cissé et Yanis Quini, puisque Marco Gianiorio est aussi indisponible sur blessure. Yanis Quini qui sera donc le gardien remplaçant de la SNL ce soir. Et puis comme me faisait remarquer Eric tout à l'heure, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessés au niveau défensif côté nancéen, parce qu'il n'y a que des attaquants plus un gardien. On espère que ça va tenir du côté de la défense nancéenne, parce que tout le monde est sur le pont là. En tout cas, tout le monde est dans le 11 côté défensif. Là.
Alors, Eric, cette équipe,
On va dire que c'est une équipe pratiquement habituelle compte tenu des absences. La seule chose, c'est qu'on espère revoir Gaëtan Busman et même Pellegrini au niveau auquel ils nous ont habitués, parce que ces derniers temps, ils sont un peu passés au travers.
Avec un Prince Mendy aussi qui avait beaucoup tiré ces dernières semaines sur le physique, et on sentait que voilà, c'était compliqué, et ce soir il va se reposer un petit peu.
Allez, je vous le rappelle, vous écoutez France Bleu Sud-Lorraine en direct du stade Marcel Picot, et ses applaudissements nourris en hommage à Nicolas Hollebecq, le président de la Estancy-Lorraine. Et l'entrée des 22 acteurs, Johan.
Avec les maillots dont on vous avait parlé. Floqué Hollebecq dans le dos et ce brassard noir arboré par les joueurs nancyens, comme ça avait été le cas déjà lundi du côté du stade Bonal à Sochaux. Et cette entrée donc sur la pelouse avec les jeunes qui escortent les joueurs qui, eux aussi, eh bien, ont des maillots noirs en hommage donc à Nicolas Hollebecq. Et tous les membres du centre de formation et des jeunes anciens qui sont en face là Ça fait beaucoup, beaucoup de
ça
monde,
fait du monde ouais.
pour venir rendre hommage au président ancien. Mais on va dire que là, toutes les composantes du club de la SNL sont représentées avec les jeunes, les féminines, les jeunes de la Gambardella aussi qui nous ont tant fait plaisir et qui vont pouvoir début mai disputer la demi-finale de la compétition ici même face à Troyes. Et pour l'instant, bah, il va y avoir le tirage au sort entre les deux capitaines, Walid Orinel côté de Martigues et Gaëtan Bussemann côté nancéen. Et c'est Gaëtan Bussemann qui va remporter le ballon. Et du côté de Martigues, on a décidé de rester à droite près de la tribune shoot. Les nancéens resteront à gauche depuis notre position, bien évidemment. Devant la tribune Piantoni, il y a un bouc qui a été oui. amené aussi par les groupes de supporters et le club de Martigues aussi
également.
Va aller déposer un bouquet de fleurs dans le rond central juste avant cette minute en hommage à Nicolas Holweck. Les arbitres sont en train de prendre leur place
et les enfants de Nicolas Holweck en effet qui vont donner donc le coup d'envoi dans l'instant de cette rencontre, le coup d'envoi fictif. Flavien Lojard, le speaker du stade Marcel Picot, les accompagne jusqu'au rond central. Une minute d'applaudissement en hommage à Nicolas Holweck. Okay.
Parmi nous ce soir et qui m'ont donné le coup d'envoi fictif. Merci de les applaudir également s'il vous plaît.